Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, de l'industrie du gaming et où on vous explique ce qu'il est important de retenir. On fait cette émission à peu près toutes les deux semaines et je suis Patrick Béja, je vous accueille en compagnie aujourd'hui d'un vétéran de l'industrie et de la presse, surtout presse papier et presse web. J'ai nommé Julien Hubert, alias Julo, alias Julo pour les intimes. Comment ça va Julien ?
Ça va très bien, merci beaucoup de m'accueillir, ça me fait plaisir.
Ça me fait plaisir de te recevoir, donc cofondateur de Gameblog, comme la plupart des auditeurs le sauront, j'en suis certain, et je suis heureux de te recevoir parce qu'on a beaucoup de choses dont on va parler aujourd'hui. On a Twitch qui annonce des trucs qui sont à mon avis importants, qui sont un petit peu passés sous le radar, tu me diras ce que t'en penses. Vivendi qui lâche enfin Ubisoft, Sea of Thieves, petit coup de cœur limite à contre-cœur de pas mal de gens, on va en parler. On évoquera aussi Ni No Kuni 2, A Way Out, Lumines, la GDC, enfin plein de choses. On va se lancer tout de suite. Avant ça, quand même, une petite question à Julien. Là, on a une émission avec trois jeux quand même importants et j'ai presque l'impression que c'est une semaine calme ou un mois calme alors qu'on a quand même des jeux qui sont pas trop mauvais. C'est quand même un témoignage de la qualité des jeux qu'on a depuis un an et demi, deux ans, ou avec une semaine avec Ni No Kuni 2, Sea of Thieves, The Way Out, c'est genre, oui bon, c'est des petits jeux en ce moment quoi. C'est une période assez incroyable en ce moment.
Alors cette période incroyable, moi je trouve, j'ai l'impression que ça fait plus d'un an et demi qu'on se dit ça tous les ans. Hein, ça fait au moins, je sais pas, 3-4 ans qu'on se dit mais l'année prochaine va pas être encore plus dingue que ça, etc. Là je trouve effectivement que ça commence pas mal. Peut-être pas aussi bien que l'année dernière, mais disons que oui. Maintenant il y a du lourd toute l'année quoi. C'est un peu ça qui change avec les grosses sorties qu'il peut y avoir, qu'il y avait uniquement sur la fin d'année au mois de novembre, octobre, etc. Là aujourd'hui c'est beaucoup plus équilibré dans l'année, il y a beaucoup plus de jeux qui sortent et donc les éditeurs forcément ils essayent d'utiliser au maximum le calendrier, les différentes places sur le calendrier pour pas être confrontés parfois aussi à des gros mastodontes. Pour en avoir parlé par exemple avec pas mal d'éditeurs, tout le monde a peur de Red Dead Redemption, tu vois, donc c'est marrant parce que à chaque fois ils accueillent avec surprise et puis un peu à contre-cœur les retards de Red Dead Redemption 2 parce que ça pète un peu tout leur plan, etc. Il y a des gros épouvantails comme ça et donc en tout cas le résultat depuis quelques années, ouais je dirais 3-4 ans, c'est qu'on a des bonnes sorties tout au long de l'année quoi. C'était le cas l'année dernière, c'est encore le cas cette année.
Et d'ailleurs on a les premières impressions sur God of War qui sont arrivées. God of War qui sort dans un mois maintenant, moins d'un mois, que moi j'ai évité comme la peste, donc je peux même pas vous parler des impressions.
Tu veux pas te spoiler?
Non, je veux. On a vu 2-3 trailers, on sait qu'on voit à peu près le ton, l'ambiance, et maintenant je veux y aller complètement à l'aveugle. Et bon, je suis un petit fan de la série, mais j'ai surtout énormément d'espoir dans ce nouvel opus qui, bon, comme on l'a répété des dizaines de fois, pourrait être l'arrivée de la maturité dans cette série qui était quand même très adolescente. Et les premières impressions du très peu que j'ai vu semblent plutôt bonnes. Et bon, c'est des impressions sur 2 ou 3 heures de jeu, donc on ne sait pas encore ce que donnera le jeu.
Sur les 3 premières, c'est important, tu sais, les premières heures dans un jeu. C'était Miyamoto qui disait ça, il disait même pour la première demi-heure. Et en l'occurrence, c'est vrai que les 3 premières heures, parce que c'était vraiment une des impressions qui ont été faites du tout début du jeu jusqu'à donc 3 heures de jeu, et elles sont très bonnes. Après, ce qui est marrant, c'est que...
Elles sont toujours très soignées. Le début, c'est ce qu'ils font à la fin, justement, quand ils maîtrisent tout dans la conception d'un jeu, et donc le début est généralement très soigné.
Il y a un jeu que j'ai adoré ces dernières années par un nouveau studio qui fait un travail extraordinaire, c'est Playground qui fait les Forza Horizon. Et ils expliquaient il y a pas longtemps que sur Forza Horizon 3, qui est un jeu exceptionnel, je sais pas si tu y as joué, mais c'est l'un des meilleurs jeux l'année où il est sorti. Il avait annoncé avoir travaillé, je crois, 18 mois sur le début du jeu. voilà, dans le développement, c'est-à-dire en parallèle de plein d'autres trucs évidemment, mais c'était pour signifier vraiment à quel point ça avait été important pour eux.
C'est sûr.
Et c'est vrai que dès le début de, on va dire, la première heure de Forza Horizon 3, t'as tout compris à ce que tu vas vivre et ça te met en appétit un truc de fou avec voilà, quelque chose de très rythmé, de très bien fait quoi. Mmh. Et c'est très important évidemment. Donc c'est le cas dans God of War apparemment. Et surtout, ce que je trouve marrant avec God of War, c'est de c'est le premier épisode de la série qui va véritablement changer quelque chose. Et c'est une série, on le sait, qui a des gros fans, donc a priori, si j'ai bien compris, t'en fais partie. Et y a pas mal de gens qui ont peur en fait du changement. Et c'est assez marrant parce qu'il y a quelque chose comme ça de contradictoire chez les joueurs, c'est que souvent ils demandent du changement, des nouveautés, etc. Puis quand une formule bien établie commence à être un peu trop bougée, ils ont peur à l'avance. Il y a pas mal de joueurs, oui, de fans de God of War qui se plaignent du fait que ça se last of usise, que le changement de point de vue change le gameplay et donc
c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué parce que tu peux refaire le même jeu ad vitam et tu es effectivement dans une sorte de position de sécurité, mais c'est ce qu'on a vu avec moi je prends toujours cet exemple de Gears of War ou même Halo qui était bon, ouais, les derniers épisodes, mais bon, au bout d'un moment t'as fait le tour et donc si ça va plaire aux fans qui vont le faire comme ça et qui vont peut-être en être satisfaits, je pense qu'il a aussi, il y a aussi un intérêt à renouveler une formule. Et oui, évidemment, effectivement, on peut se planter, c'est clair. Je pense que aujourd'hui, ça aurait été en particulier pour God of War un petit peu compliqué de faire exactement la même chose. Bon, ils auraient pu faire une petite adaptation avec des changements moins drastiques, mais enfin bon, bref, on va pas parler trop longtemps de God of War. On aura l'occasion dans quelques semaines de le faire. On aura aussi l'occasion de parler bientôt de Far Cry 5 qui sort au moment où on enregistre demain.
Donc c'est marrant que tu cites celui-là parce que c'est tout le contraire pour le coup. Far Cry, oui, c'est une série qui reste vraiment dans la même formule.
La formule, oui, exactement. À l'autre.
Ouais. Voilà, c'est vraiment c'est l'anti justement God of War à ce niveau-là.
Bah effectivement, on a Far Cry qui là affine la formule. On verra si ça sera avec succès ou pas. On avait déjà parlé du fait qu'il y a une tonne de contenu en plus entre le DLC, enfin les DLC et l'éditeur de cartes qui va être proposé aux joueurs. Bon, on verra ça, mais ça sort encore un jeu important qui sort cette semaine. Mais donc parlons de l'actualité. Comme je disais, on parlera de Sea of Thieves, Ni No Kuni, A Way Out, etc. dans quelques instants. Mais moi, je voudrais mettre en lumière une information qui, à mon sens, est un petit peu passée sous le radar de la presse. C'est l'annonce des Free Games with Prime de Twitch, qui copie un petit peu le modèle de la PlayStation, PlayStation Plus et Xbox Live. Donc, ils vont désormais offrir chaque mois une certaine quantité de jeux aux abonnés Twitch Prime. C'est aux abonnés Twitch Prime qui sont en fait les abonnés Amazon Prime, qui sont hyper nombreux et de plus en plus nombreux parce que ça offre des avantages incroyables avec ce mastodonte d'Amazon. Donc il y a, c'est presque pas cohérent de pas être abonné tellement c'est bon marché et tellement ça offre d'avantages. Mais là où moi ça me paraît hyper important, c'est que oui, Twitch offrait jusqu'à maintenant des jeux de temps en temps ou des objets en jeu ou des choses comme ça. Mais là, ils formalisent la chose. D'une part, les jeux des deux premiers mois sont quand même des jeux assez bons. On voit que sur le premier mois, qui sont disponibles maintenant, on a Superhot, Shadow Tactics, Tales from Candlekeep, celui-là je ne connais pas, Oxenfree et Mr. Shifty. Au mois d'avril vont arriver Tales from the Borderlands, sans doute l'un des meilleurs épisodes de ces, enfin l'un des meilleurs jeux de Telltale Games, SimWorld Dig 2, etc., etc. Là où, à mon sens, c'est hyper important, c'est que ça affecte l'installation des applications Twitch. Parce que pour pouvoir lancer ces jeux, il faut bien sûr l'application Twitch qui se double d'un lecteur Twitch, mais qui surtout pourrait à terme devenir un store. Et c'est, à mon avis, une porte d'entrée vers les stores sur Internet. On sait bien sûr que, enfin sur les PC, on sait bien sûr que Steam était un petit peu inassaillable jusqu'à maintenant encore. On a tous les éditeurs qui veulent avoir leur application pour avoir leur store et pour éviter de payer les 30% à Valve quand ils sont présents sur leur store, sur Steam. Bon, Blizzard a plus ou moins réussi, mais Blizzard, ils sont un petit peu particuliers. C'est les joueurs Blizzard qui jouent au jeu Blizzard, et voilà, même s'ils ont Destiny 2 maintenant également sur leur application. Mais au-delà de ça, les Uplay, les Unity, enfin, je sais même plus comment ils s'appellent, celui d'Origins, voilà, celui de EA. Bon, ils sont quand même, les gens les installent à contre-cœur. Je crois que ça pourrait donner à Twitch l'opportunité de devenir cette alternative à Steam sur le long terme. C'est une sorte de porte d'entrée vers cette possibilité, parce que vu la qualité des jeux qu'ils offrent, je pense qu'il y a une grosse partie des joueurs PC qui sont aussi abonnés Amazon Prime et Twitch Prime, qui vont installer le truc et, ou au moins qui vont récupérer les jeux. Est-ce que je vois trop loin ou trop positif dans cette histoire, ou c'est
je sais pas si tu vois trop loin ou pas. En tout cas, c'est intéressant comme analyse. Personnellement, c'est pas celle que je m'étais faite. Moi, j'avais surtout l'impression que Amazon, qui a donc racheté Twitch, si je dis pas de bêtises, en 2014. En 2014, je crois, un truc comme ça.
Ouh, ça fait si longtemps, non?
Ouais, non, c'est pas ça.
Bon, je sais plus. Enfin bon, ils l'ont fait quelques années.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ils veulent faire valoir les ponts, et eux, ils ont un abonnement Prime qui ne cesse d'améliorer, parce que c'est au cœur de leur stratégie de développement et de
d'omniprésence.
D'omniprésence et de garder.
T'as raison, ça fait déjà 4 ans. C'est déjà 2014. Enfin, c'était voilà. En 2014 qu'ils ont racheté. T'as raison.
Et donc voilà, ils font valoir ça, je pense surtout. Mais c'est intéressant, ouais, cette idée d'imaginer effectivement, parce qu'on a bien vu, hein, parmi les avantages qu'il y a à être Twitch Prime, il y a aussi des réductions, des garanties de meilleurs prix sur les précommandes, etc. Oui. Enfin, on voit qu'il y a un rapport commercial sur les jeux qui est déjà mis en place. Et donc c'est vraiment pas bête de s'imaginer qu'à terme, c'est l'envie de concurrencer Steam avec un véritable store. Ça me paraît tout à fait judicieux.
Ouais. Bah, ça serait cohérent avec justement le cœur de métier d'Amazon en plus, donc et la synergie avec le streaming est tout trouvé. Enfin bref, donc.
Mais c'est marrant Amazon Prime, parce que ils en font pas une. Enfin, j'ai pas l'impression qu'ils en fassent des tonnes. Moi, je me suis abonné à la base à Amazon Prime pour pouvoir commander des livres ou des différentes choses et les avoir le soir même ou le lendemain, etc. Puis d'un seul coup, je me suis rendu compte quand ils ont lancé Amazon Vidéo qu'en fait j'y avais le droit gratuitement, donc je suis devenu un peu accro à ça aussi, en plus de Netflix. Là, j'ai découvert effectivement que j'étais Twitch Prime et que je pouvais profiter également de jeux gratos par ce biais. Alors, j'ai l'impression vraiment que c'est Amazon se sert de Twitch, et Twitch va créer un abonnement aussi payant qui va donner des. Enfin voilà, c'est un échange de bons procédés entre les différentes plateformes, quoi. Et c'est vraiment intelligent, quoi.
C'est sûr. Puisqu'on parle d'argent et de stratégie commerciale, on peut évoquer l'autre grosse information gaming et on va dire française de cette dernière semaine, c'est l'annonce que Ubisoft a réussi vraiment contre toute attente à repousser les assauts de Vivendi, qui depuis ça doit faire 2 ans, peut-être un peu plus, essayait petit à petit de grignoter les actions d'Ubisoft pour y gagner une part suffisamment importante pour récupérer. En fait, c'était une sorte
ils ont fait plus qu'essayer. Ils sont arrivés carrément à quasiment 30%, je crois.
C'est ça, ouais.
27
oui.
et quelques.
Tout ouais, à donc fait, oui. Et on savait, bon, ils ont déjà récupéré Gameloft, mais on savait que la grosse proie qu'ils cherchaient à attraper, c'était Ubisoft. Et je pense que la plupart des journalistes voyaient la chose comme un petit peu inévitable, hein, il y a quelques années de ça. Entre temps, la situation de Vivendi s'est un petit peu détériorée. Ubisoft a très habilement joué de son image, de sa stratégie, de développement, avec des soutiens à ces titres qui l'ont renforcé, qui ont généré une confiance de la part des joueurs, on en parle souvent dans l'émission, et un maintien de titres qui n'était pas forcément gagnant au lancement. Ils ont vraiment géré ça de manière très habile, et puis en plus de ça, ils ont financièrement géré les choses de manière inattendue. Bref, ce qu'on annonce la semaine dernière, c'est que Vivendi vend ses parts de Ubisoft. Ils les vendent à Ubi d'une part et à leurs partenaires. Alors il y a des groupes de pensions, de retraite, pardon, des fonds de retraite canadiens. Il y a plusieurs petits groupes différents.
Et puis il y a Tencent.
Il y a Tencent, évidemment, énorme partenaire pour Ubisoft. Ils vendent donc Vivendi pour 2 milliards, ce qu'ils avaient acheté pour, on va dire, 700 millions. C'est pas non plus une mauvaise affaire pour Vivendi.
Ah bah non,
je pense que c'est gagnant-gagnant. Mais Vivendi, ce qu'ils cherchaient à faire, c'était se lancer dans le contenu dans le jeu vidéo. Et ça, ils doivent y renoncer, ou du moins avec Ubisoft. Ils ont tout de même Gameloft de l'autre côté. Et Ubisoft fait donc cette alliance de raison avec Tencent, qui ne récupère pas de part de contrôle dans Ubisoft. Donc Ubisoft a entièrement le contrôle de sa société. Enfin, une bonne partie, il n'y a plus de menaces chez les actionnaires. Et surtout, cette alliance avec Tencent est cohérente, puisque Tencent a un énorme pouvoir en Chine, où Ubisoft va pouvoir se développer grâce à ce partenariat. Ils travaillaient déjà ensemble, mais là, ça va certainement s'amplifier. Donc oui.
Et Vivendi s'est engagé à ne pas attaquer à nouveau Ubisoft pendant 5 ans, apparemment.
C'est ça. C'était genre... On vous promet, là, on se calme. Mais, ouais. Mais oui, donc il y en a qui gagnent plus et il y en a qui gagnent moins, mais tout le monde gagne dans cette affaire, j'ai l'impression, non? Bon, on n'est pas des analystes financiers, mais.
Bah, en tout cas, je trouve que le truc le plus intéressant à dire là-dessus, c'est que on avait tort, quoi. Enfin, au bout d'un moment, faut l'admettre. Tu disais tout à l'heure que tous les journalistes et puis tous les observateurs, d'une manière générale, voyaient le rachat final, enfin la prise de prise de pouvoir, la prise de contrôle totale comme inévitable. Enfin, je veux dire, nous-mêmes, on s'est dit, mais enfin, voilà,
résister aux géants Vivendi, quoi.
On voyait Yves Guillemot se battre contre des moulins à vent. Un peu, on se disait, voilà, il fait que repousser l'échéance. Mmh. Et donc, il faut tirer quand même un grand coup de chapeau à la stratégie d'Ubisoft qui a payé, quoi. Alors. Si Vivendi n'avait pas pu faire une telle culbute, hein, de 700 millions à 2 milliards, je sais pas si ça se serait fini comme ça, mais dans tous les cas, chapeau, quoi, parce que voilà, il faut l'admettre, on a eu complètement tort sur cette histoire, hein, et ils ont renversé la vapeur de manière vraiment impressionnante, en fait.
Voilà, et j'ai l'impression en plus que toute cette communication qu'a fait Yves Guillemot et qu'ont fait Ubisoft dans leur ensemble était authentique, quoi. Je pense que au moment de cette annonce, il y a vraiment les employés d'Ubisoft qui ont non seulement soufflé un grand coup, mais en plus ont dû faire la fête quelque part, parce que ils avaient ce spectre d'une vente à une entité qui est beaucoup plus intéressée. Enfin, évidemment, toutes ces sociétés sont intéressées par les profits, Ubisoft inclus. Mais il y a souvent un juste milieu à trouver, et certainement qu'ils sont beaucoup plus à l'aise avec Yves Guillemot et les actionnaires actuels d'Ubisoft à la barre plutôt que Vivendi, et ils sont attachés à cette culture d'entreprise. C'est authentique, ça. Je pense que c'était pas uniquement une affaire de com et de
c'est vrai que l'angle principal d'Ubi, c'était, enfin, de Yves Guillemot, des équipes d'Ubi qui étaient derrière lui, etc., c'était l'indépendance, la liberté de pouvoir continuer à créer les contenus comme il voulait, et puis ne pas être influencé par une boîte qui avait d'autres intérêts et qui les aurait détournés de ce chemin-là, quoi. Parce que c'est vrai qu'Ubisoft, c'est une grande boîte française qui fait des jeux à l'international, etc. Mais c'est une boîte qui a une liberté dans ce qu'elle fait, parce qu'elle est maître de son bateau, quoi. Oui. Donc là, ça aurait changé beaucoup de choses. Et je pense que ça, c'est vraiment un argument qui avait du poids à la fois chez les équipes, quoi, en interne, et puis en externe pour les observateurs qui regardaient ça d'un peu plus loin. Mais voilà, je pense que c'est une stratégie qui a fonctionné à merveille, même si parfois c'était un petit peu enjoué, peut-être que des fois c'était un petit peu trop.
Oui, mais bien sûr.
Voilà, c'était un peu orchestré, un peu mis en scène, etc. Mais voilà.
Mais il y a un fond d'authenticité, j'ai vraiment l'impression, et des gens que je connais qui sont plus ou moins proches d'Ubi, etc., il y a quand même, on le sent, quoi. Mais bon, et puis, il faut, bien sûr, on l'a précisé, mais il faut pas oublier non plus que c'est également possible grâce à la réussite de la stratégie commerciale et de développement d'Ubi, qui a eu succès sur succès ces dernières années, donc qui a affaibli la position de Vivendi, qui disait, non, vous savez pas gérer votre boîte, quoi.
Donc, moi, je me rappelle qu'on a ouvert, tu vois, Gameblog, à 11 ans désormais, on a ouvert en 2007, Et je me souviens qu'à l'époque, on en parlait beaucoup d'Ubisoft. C'est le moment où il y a eu une grande transformation et on sentait vraiment qu'il y avait énormément d'originalité, de créativité. Et puis en même temps, une boîte qui grossissait, qui s'implantait internationalement, qui pesait en fait dans le game, quoi, à côté d'Electronic Arts, etc. Et je me souviens que voilà, c'était quelque chose qu'on regardait presque avec un peu de fierté aussi, parce qu'on est français.
Ah bah bien sûr, oui.
Ouais, c'est bien qu'ils aient réussi à faire ça. Voilà.
Alors, bah, passons à au premier jeu dont on va parler, bah, pour le coup, un petit peu plus longuement que les deux autres. C'est Sea of Thieves qui a généré beaucoup d'interrogations tout au long de son développement et qui, à vrai dire, à sa sortie, n'a pas forcément complètement répondu à ces interrogations, puisque c'est gros jeu de Microsoft, développé par Rare, éditeur légendaire qui avait perdu sa superbe à l'époque où il avait été parqué sur le développement de jeux et d'expériences pour le Kinect, hein, par Microsoft quand ils les ont rachetés. Là, c'est un petit peu le retour de Rare qui développe des jeux qu'ils veulent développer. Et on a un titre qui a généré, comme je le disais, beaucoup d'interrogations, puisque on voyait un potentiel de fun qui était clair pendant le développement et pendant les bêtas, mais des préoccupations sur la durée de vie et sur les choses qu'il y avait à faire finalement dans le jeu. Il est sorti il y a quelques jours de ça. Je vais te donner la parole du coup. Tu me disais que c'était quand même un gros coup de cœur pour toi.
Alors moi, ouais, pour moi c'est un énorme coup de cœur. Alors il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit déjà. Rare. Tout le monde sait bien que il a certainement dû profiter à une époque quand il était chez Nintendo du contrôle qualité, des fins de développement, peut-être de l'aide de Nintendo, etc., qui fait qu'ils ont créé des jeux légendaires. Et quand ils sont passés chez Microsoft, parce que moi je mets pas ça uniquement sur le compte de Kinect et de toutes les dernières missions qui ont été confiées à Rare, mais d'une manière générale, depuis qu'ils sont chez Microsoft, ils brillent plus autant, quoi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Rare de très haut niveau. Et moi je trouve que quand on commence à jouer à Sea of Thieves, on retrouve vraiment le Rare de cette époque-là, quoi, le vrai Rare, quoi. C'était tout simplement un moment génial de commencer à jouer à Sea of Thieves, parce que on découvre un concept un peu innovant, on découvre toute la patte artistique, hein, qui est celle de ce développeur anglais, et qu'on retrouve vraiment au sommet, je trouve, avec Sea of Thieves, une réalisation impeccable en termes de graphisme, en termes sonores, de l'originalité, donc je le disais, et puis un concept génial, quoi. Enfin, il suffit de lancer ses premières parties de Sea of Thieves pour se rendre compte du potentiel de ce jeu qui est absolument énorme, parce que c'est une usine à rigolade, parce que chaque petite découverte...
Une usine à rigolade, je trouve le terme bien trouvé. Explique justement le principe. Je suis sûr que tous les auditeurs savent de quoi il s'agit, plus ou moins, mais réexpliquons le principe juste pour rattraper ceux qui sont en retard.
Donc c'est un grand monde ouvert, ambiance pirate, c'est-à-dire que il y a plein de petites îles et le monde ouvert est une vaste mer dans laquelle on peut se déplacer en bateau. On fait des équipes ou pas, d'ailleurs on peut jouer tout seul, mais on peut faire sinon une équipe de deux, une équipe de trois, une équipe de quatre, et on se retrouve entre pirates comme ça. Et il n'y a pas véritablement un fil rouge scénaristique, hein, il n'y a pas une mission principale, le jeu se finit pas, c'est vraiment un monde ouvert, comme on dit, bac à sable, hein, c'est-à-dire qu'on a un univers à disposition et puis on fait mumuse avec. Et l'idée, c'est...
Mais il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas genre une quête où quelqu'un, quand t'arrives dans le jeu au début, te dit va faire ça, va trouver.
Oui, non, t'es justement plutôt lâché un peu de manière abrupte comme ça là-dedans, et c'est à toi de découvrir, et c'est vraiment fun d'ailleurs de découvrir les mécaniques de jeu, même si t'es un petit peu aidé au départ. Mais en gros, ouais, il n'y a pas de fil rouge, il n'y a pas d'histoire, il y a un lore, comme on dit, c'est-à-dire un univers, quoi, qui a été créé, assez riche, etc., on peut le sentir. Il y a par exemple un kraken qui se balade à droite à gauche, qui peuvent surprendre ton bateau et t'engloutir. Il y a des conquêtes de forts, etc. Et puis sinon, tu as donc des missions. Alors c'est soit de la chasse au trésor, soit il faut aller tuer un pirate légendaire.
Comment on prend les missions, justement, s'il n'y a pas de... Comment ça se passe, ça, concrètement, dans l'interface?
Alors en fait, parmi toutes les îles qui sont disponibles dans le monde ouvert, il y a des avant-postes. Il y en a plusieurs, hein, disséminés un peu partout. Ces avant-postes-là, c'est des zones dans lesquelles il y a trois comptoirs de trois guides. guildes. Alors il y a la guilde des chasseurs de trésors, il y a la guilde mystique, et puis t'as la guilde des marchands. Donc les guildes des chasseurs de trésors, bah tu, comme son nom l'indique, il faut aller creuser des trésors. Donc ils te donnent une mission.
D'accord.
Et ils te disent par exemple, ils te donnent deux types de manuscrits. Donc ça peut être soit une énigme, soit une carte trésor avec une petite croix. Donc c'est à toi après de trouver l'île, puis de trouver le bon endroit où creuser, ramener le trésor à cette guilde, et là tu gagnes des niveaux et tu gagnes de l'argent, et tu peux gagner des niveaux et de l'argent aussi donc avec les deux autres guildes, donc celle des mystiques où tu dois aller tuer des anciens pirates sous forme de squelettes et ramener leur crâne, et t'as une troisième, donc les marchands, où tu vas chercher des cochons, des poules ou des choses comme ça sur des îles, et tu les ramènes dans des cages. C'est assez rigolo, mais ce qui est génial, c'est qu'en fait dans ce monde ouvert t'es une équipe de 4 maximum, hein. Mais tu croises d'autres pirates, d'autres équipes de 4. Et en fait, comme le but du jeu, c'est d'aller chercher des trésors à droite à gauche et de les ramener au comptoir d'un de ces avant-postes, et ben tu peux tomber sur d'autres pirates. Il y a des pirates qui vont par exemple se dire voilà, on va pas aller nous-mêmes chercher des trésors, on va couler notre bateau, se planquer dans un avant-poste et attendre qu'un mec arrive. On les bute, on prend leurs trésors et on les encaisse pour notre pomme.
Tu dis couler notre bateau, c'est pour que les autres pirates qui arrivent ne voient pas qu'il
y a
parce déjà.
Ouais. Exactement, parce qu'au bout d'un moment, tu rentres dans un mind game avant quand t'as tes cales remplies de trésors, parce que t'essayes du coup de remplir tes cales un maximum avant de rentrer à l'avant-poste pour faire plein de niveaux et plein d'argent d'un coup. Mais au moment où t'arrives, c'est un stress monumental. Et puis pareil, quand tu croises un autre galion, mettons si toi t'es une équipe de deux dans ton petit bateau, parce qu'il y a plusieurs types de bateaux, et que tu croises un galion, tu fais tout pour l'éviter, donc t'es toujours sur la vigie. Il y a toujours l'un des quatre membres d'équipage qui est sur la vigie, en train de regarder avec la longue vue pour voir s'il y a pas un bateau alentour. Et puis d'un seul coup, il envoie, il fait les mecs, il y a un bateau. Faut absolument qu'on l'évite ou qu'on change d'avant-poste, etc. Puis des fois, t'es pris en poursuite, et donc il peut y avoir des batailles navales, parce que vraiment le maniement des bateaux, enfin l'utilisation des bateaux, est aussi un point fort du jeu qui est assez extraordinaire, c'est qu'en fait, faut tout gérer sur le bateau, et tu peux y aller tout seul sur un tout petit bateau, et à ce moment-là gérer toi-même les voiles, la direction, l'ancre, les canons,
et tu dois courir d'un poste à l'autre sur le petit bateau.
Ouais. Mais donc sur les grands galions, t'es à 4, et vraiment bah quand t'es à la barre par exemple, tu vois rien ce qu'il y a devant toi à cause des voiles. Donc il faut que quelqu'un soit devant pour te dire attention, récif, terre en vue, direction nord-nord-ouest, etc. T'as toujours un mec aussi qui est utile dans les voiles, parce que les vents, un peu comme dans Wind Waker, le Zelda de la GameCube à l'époque, il faut gérer la navigation aussi avec le vent. Et donc en fonction du sens du vent, il faut que tu inclines les voiles. Après il y a des trucs trop marrants, par exemple quand tu cognes contre un récif, ça fait des trous dans ta coque, et à ce moment-là c'est le stress, parce qu'il faut vite aller dans la cale, prendre des planches de bois, réparer la coque du bateau de l'intérieur, et puis ensuite écoper avec un seau pour faire sortir l'eau. Voilà, donc tu cours dans tous les sens, et ça crée des moments de jeu. En fait il y a effectivement pas d'histoire et pas de fil rouge, mais par contre à chaque fois que tu lances une partie, tu crées une petite histoire avec tes amis et puis les gens que tu vas croiser. Et c'est assez marrant parce qu'il y a aussi un chat de groupe, donc tu te parles entre potes dans ton groupe de 4.
Mais lorsque tu t'approches,
en voice chat, ouais, bien sûr. Et lorsque tu t'approches d'un pirate ennemi, tu l'entends aussi. En fait, par proximité, tu peux entendre les autres chatter aussi ou te parler. Et du coup, il y a des pirates qui essayent de sortir le drapeau blanc, entre guillemets, qui disent non, mais je vous veux pas de mal.
Ouais, ouais.
Communique un petit peu, et puis il y en a qui te font ça, mais c'est de la ruse, tu te fais tu te fais avoir par derrière après, etc. Bref,
mais alors,
il y a une base dans ce jeu qui est absolument extraordinaire et qui est, comme je le disais, une usine à rigolade et à fun, mais tout ça c'est un petit peu gâché, et c'est là que tu voulais revenir, j'imagine, et puis c'est un peu
en fait ma question, d'une part, bon, c'est un matchmaking, une instanciation, et on se retrouve à croiser des d'autres personnes. Il doit y avoir, je sais pas, sur chaque carte, j'en sais rien, mais genre 10-20 groupes, et puis voilà, et il y a qu'une île où on peut rapporter les trésors, par exemple, ou il y en
non,
a
non,
plusieurs.
Il y en a plusieurs.
Ah d'accord,
il y en a plusieurs.
Donc on ne sait pas. Ok, il y a plusieurs avant-postes. Et tu disais, on peut gagner de l'expérience et de l'argent et tout ça. Il y a une progression, atteindre. Ouais, c'est là
oui,
que le bas blesse. Ouais.
Et c'est là que le bas blesse. Effectivement, t'as raison. Donc oui, il y a un système de progression. En fait, t'as une carotte qui est distante et un peu dans le brouillard. C'est le endgame. Le endgame, donc c'est dans les jeux multijoueurs comme ça, MMO au long cours, ce qu'on appelle le endgame, c'est l'intérêt qu'a le jeu une fois que t'es arrivé à un niveau maximum, par exemple, etc. Donc en gros, t'es trois guildes, tu vas monter de niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. chez les commerçants, chez les chasseurs de trésors et chez les mystiques. Et en fait, tu vas faire ces missions à gogo, à gogo, à gogo, avec carotte au loin le endgame qui arriverait apparemment au niveau 50. Il se trouve que après 20 heures de jeu, t'es encore péniblement au niveau 17, 18 dans une des guildes au maximum. Et donc t'es obligé de continuer à jouer avec un set de missions qui est redondant en fait. Et si c'est très fun pendant un temps, il y a un moment où tu t'intéresses à la progression. Tu dis bon bah maintenant j'ai envie de devenir un pirate légendaire. Pour devenir un pirate légendaire, tu commences à te renseigner, tu te rends compte que les développeurs ont plus ou moins dit que c'était au niveau 50. Tu fais merde, ça fait 3 heures que je joue, je suis toujours au niveau 17 et je suis au niveau 10 dans les deux autres guildes et tu te dis merde, je vais pas faire ça pendant 100 heures quoi. Mmh. Alors effectivement les développeurs
et les mêmes missions en plus, c'est les mêmes missions, tu refais les mêmes, ouais.
Et c'est là que on est, si tu veux, dans le côté un peu, on est dans le point faible des ce qu'on appelle les games as service. Donc on dit les jeux services en français maintenant apparemment. Les games as service, c'est ces jeux qui veulent avoir une durée de vie au-delà du lancement et des premiers mois, et donc qui se gardent du contenu pour faire des mises à jour tout au long de l'année pour garder les joueurs captifs entre guillemets, et en leur livrant à chaque fois des mises à jour qui apportent du contenu, des nouveaux types de missions, des nouveaux personnages, des nouveaux éléments de customisation, etc. Et donc là ils ont prévu de faire une première mise à jour au bout de 3 mois. Le problème, c'est qu'au bout de 3 semaines, les gens ils vont être lassés et puis ils seront découragés parce qu'ils pourront pas arriver au bout. Les développeurs voulaient en fait que le premier pirate à devenir légendaire soit un peu une superstar, qu'on parle de lui sur les sites comme Gameblog et les autres. Et c'est très certainement ce qui va se passer. Mais en l'occurrence, ils vont aussi perdre du monde. C'est-à-dire que là où ils pensaient tenir les joueurs captifs pendant 3 mois, avec dans l'espoir d'avoir le nouveau contenu pour relancer l'intérêt, là c'est au bout de 3 semaines que les gens vont s'emmerder.
C'est
ça le problème.
C'est exactement ce que je dis souvent quand on parle de game as a service et de ce genre de mécanique où effectivement on appelle ça aussi des lifestyle games, c'est-à-dire des jeux où tu passes énormément de temps, tu vas jouer avec tes amis, tu y joues presque
autant. Ça devient un rendez-vous.
Voilà, ça devient un rendez-vous exactement. On pense à Destiny, au MMO, enfin il y en a plein. Et le problème, soit c'est du PVP et du coup toutes les parties sont différentes, c'est très simple, ça règle le problème. Soit c'est du PVE et si c'est du PVE, il faut trouver un intérêt à refaire les mêmes missions. Et c'est ça le plus compliqué dans la conception de ces jeux-là. C'est pas faire une mission sympa, c'est de faire que une mission soit sympa si tu la joues 10 fois de suite. Ah ouais. Et c'est le gros problème que vont avoir tous les développeurs. C'est là que c'est que quand on évoquait Anthem par exemple, qui est une grosse promesse de cette fin d'année, début d'année prochaine, et des gens étaient très excités. Moi, ce que je disais, c'était il faut faire attention parce que le jeu peut être beau, sympa pendant 3 heures. Ce genre de jeu, il doit être beau et sympa pendant 30 heures et trouver des moyens
exact.
De te faire refaire les mêmes choses et que ça soit cool. Et c'est là que ratés, c'est ouais. que Destiny 2 s'est cassé la gueule, par exemple. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Et donc, effectivement, Sea of Thieves, ça correspond à ce que l'impression qu'on avait avant. Et en même temps, j'ai regardé un petit peu des streamers sur Twitch jouer au jeu. Tout le monde a l'air de se marrer comme des fous, quoi.
Ah mais attends, le jeu a eu un gros succès sur Twitch et les autres plateformes de streaming.
D'ailleurs,
parfois même il était devant Fortnite hein, parfois. Hein. C'était énorme. Lorsqu'il y a eu les bêtas déjà, c'était le cas. Et depuis que le jeu est sorti, effectivement, et tu vois des compiles de rigolades, on en prépare une sur Gameblog d'ailleurs. Il y a
et ils ont eu même des problèmes de serveur tellement il y avait de gens qui sont connectés. Enfin c'est
Ouais. En fait ils sont en train de gâcher leur truc. Donc là faut espérer qu'ils réagissent vite en fait. C'est ça la question. Parce qu'en gros le piège dans lequel tombent les développeurs quand ils font des jeux comme ça, c'est que ils ont des idées de développement, ils ont des idées de nouveautés, ils ont des idées d'originalité, etc. Mais tu sens qu'ils enlèvent du contenu pour se le garder pour plus tard.
Mais moi je suis pas convaincu. Peut-être, hein, mais moi je suis pas convaincu que ça soit ça.
Ils ont un plan établi.
Bien sûr, mais
ils savent ce qu'ils font dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois. Ils savent quel mode ils ajoutent. Ils savent et donc quelque part pour suivre cette directive d'avoir du contenu livrable toute l'année à intervalles réguliers, ils sont obligés quelque part d'avoir des idées à l'avance et donc de se restreindre sur ce qui donne à manger entre guillemets aux joueurs qui vont jouer. Au départ.
Ben, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible que ça soit le cas. Généralement, à mon sens, le problème, tu vois, ils peuvent rajouter 10 nouvelles missions ou un nouveau mode. Si ces nouvelles missions sont toujours pas fun à faire 30 fois de suite, ben, ça sera le même problème. C'est peut-être effectivement que dans le cas particulier de Sea of Thieves, il est particulièrement pauvre justement à ce niveau-là. Moi, je pense que les jeux as a service bien conçus ont suffisamment de comment dire d'incentive, de motivation à rejouer les mêmes missions pour que même si t'en as que je sais pas 10 ou 15, bah tu vas pouvoir t'amuser pendant au moins 3 mois. Là le gros problème c'est qu'il y a bon peut-être qu'il y a les deux problèmes finalement sur Sea of Thieves, les deux problèmes dont on parle. D'une part, il y a pas assez de contenu et en plus le contenu n'est pas fun à rejouer. Donc forcément
ça c'est surtout un problème d'équilibrage aussi parce que le truc frustrant dans Sea of Thieves, c'est de voir que tu vas bloquer le compteur pendant des heures et des heures avant d'atteindre la fameuse carotte qui est le endgame, qui réserve a priori des surprises avec des nouveautés, etc.
Faut espérer qu'il soit prêt aussi ce endgame, parce qu'on sait pas.
Apparemment, il y a une nouvelle zone à laquelle tu as accès quand tu arrives niveau 50 dans les trois trucs. Ouf. Mais le problème, c'est que pour arriver là, il y a un problème d'équilibrage. Il y a un problème d'équilibrage, c'est-à-dire que les gens vont abandonner. Donc pour moi, il y a deux solutions. Il faudrait probablement mettre en place les deux. S'ils veulent un petit peu sauver leur lancement et éviter que les gens fuient et qui se retrouvent à devoir reconquérir le public dans 3 mois avec le premier contenu, c'est que d'une part il faudrait qu'ils avancent la sortie de ce contenu prévu pendant 3 mois, que ça sorte bien plus tôt que prévu, et d'autre part qui revoient l'équilibrage
de la progression, la courbe de progression.
C'est vraiment là que le bas blesse aussi, c'est que si t'es motivé et que tu te dis ah je suis niveau 17, il m'en reste plus que je sais pas moi, si le endgame était prévu pour le niveau 25 ou 30 au lieu de 50, rien que ça, quelque part je pense que ils arriveraient à garder des gens. Mais là je pense qu'ils vont voir leur statistique de nombre de joueurs etc diminuer très très vite là à partir de maintenant là. Au bout d'une semaine à mon avis les gens vont commencer à en voir le bout et à voir cette répétitivité comme un vrai défaut quoi.
Ouais, c'est sûr, c'est triste. La grande question qui se pose s'ils avancent l'arrivée du endgame, c'est aussi est-ce que le endgame sera plus fun, est-ce que le endgame sera plus sympa, est-ce qu'il y aura des choses à faire, est-ce qu'ils réussiront à créer des activités qui sont fun à répéter.
Pour l'instant c'est un gros point d'interrogation parce que c'est là sûr, qu'ils arrivent à atteindre leur objectif de le premier pirate légendaire sera une superstar, c'est clair et net, hein, parce que là, ça fait déjà une semaine que le jeu est sorti, et on sait bien que de par le monde, il y a toujours des fous furieux qui jouent 8 heures par jour à un jeu comme ça pendant toute la première semaine. Il n'y a même pas un seul mec au monde qui est devenu pirate légendaire niveau 50 sur les 3 trucs. Je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais ça sera même probablement pas la semaine prochaine ni la suivante. C'est tellement énorme le temps qu'il faut investir pour arriver à ce niveau que effectivement, s'il y a un fou qui va y arriver très vite, peut-être, je sais pas, mais en tout cas c'est toujours pas le cas. Et donc c'est un grand point d'interrogation, c'est un gros mystère. On ne sait pas à quoi ressemble le endgame. Et là on sort tous nos tests sans avoir pu
sans savoir,
parce qu'on sait qu'on l'attendra pas.
Écoute, merci pour ce long topo sur Sea of Thieves. J'espère que ça vous aura donné un petit peu de clés supplémentaires pour savoir si vous vouliez l'acheter ou pas. Exclusif Xbox One, bien sûr, sur et console PC. Et puis PC sur PC. Voilà. Entre parenthèses, ça pose visiblement des soucis avec des bots qui affectent genre les joueurs sur console par rapport aux joueurs sur PC. C'est-à-dire comme ils sont matchmakés ensemble, les joueurs PC ont créer des bots pour mieux viser, etc. Et donc les joueurs console se retrouvent. Je l'évoque parce que c'est intéressant de voir que ça peut donner un argument à Sony qui garde sa chasse gardée de population de joueurs qui ne veut pas faire du crossplay avec les autres consoles, bon avec Microsoft spécifiquement, et qui commençait à être un petit peu pointé du doigt comme y mettant de la mauvaise volonté. Là, comme le pointe, comme l'indique l'article de Windows Central que je lisais à ce propos, ça peut donner l'opportunité à Sony de dire ah mais regardez sur Sea of Thieves ça provoque des problèmes machin, donc non nous on veut pas. Bon, sauf
j'ai
que
pas,
Sony
j'ai
veut
pas
bien
été confronté à ces problèmes là perso. Parce que le système de combat est un peu, il est pas très poussé dans Sea of Thieves, c'est pas vraiment au cœur du gameplay.
C'est encore plus pour le LOL que pour la compétitivité, quoi.
Ouais, clairement. Après, voilà, j'ai pas été confronté avec des problèmes avec les joueurs PC. D'ailleurs, tu sais pas si les gens sont sur PC ou pas, quoi.
Bon, bah écoute, avançons un petit peu. On va parler de deux autres jeux rapidement et puis d'une série de news. D'abord, Ni no Kuni 2, qui pour le coup fait un petit peu plus le consensus. C'est évidemment la suite de Ni no Kuni 1, qui est sorti il y a presque 5 ans maintenant.
Ouais, sur PS3.
Ouais. Et qui était une collaboration avec le studio Ghibli. C'est plus le cas de Ni no Kuni 2, développé par Level 5, et qui est donc un jeu de rôle japonais, JRPG, relativement, je dis bien relativement classique, avec deux points notables. D'une part, la direction artistique absolument époustouflante, qui reprend un petit peu les codes de Ghibli, hein, même si le studio en question n'est plus impliqué dans le développement du jeu. Direction artistique absolument enchanteresse, enchanteuse, qui vraiment est hyper impactante. Et puis, bon, type de gameplay JRPG et au bout d'un moment des éléments de, je sais pas comment appeler ça,
gestion,
SimCity, voilà, SimCity gestion, oui, qui viennent s'ajouter pour reconstruire le royaume. C'est peut-être l'un des jeux qui me fait le plus envie, dont je sais que je n'aurai pas le temps d'y jouer parce que j'ai un enfant, mais vraiment c'est je pense que tout le monde est assez d'accord pour le coup. C'est un jeu qui a l'air de tenir ses promesses et d'être un très bon JRPG. Peut-être pas forcément à conseiller aux gens qui sont allergiques aux JRPG, mais sinon ça a l'air d'être quand même un bon jeu, quoi.
Non, mais la bonne nouvelle, c'est effectivement que c'est un RPG japonais de qualité, quoi. Un typique RPG japonais de qualité. Donc pour ceux qui aimaient le genre et qui se sentent un petit peu oubliés ces dernières années, voilà, c'est un super RPG japonais. En plus, il a des originalités. Tu parlais du principe de gestion, etc. Après, moi, je trouve ça un peu dommage. C'est un truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'ils n'ont pas utilisé les mêmes techniques que pour le premier. Finalement, je trouve moins beau que le premier.
C'est vrai.
Ah, ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais et d'ailleurs, les développeurs l'expliquaient un peu dans un des carnets de développeurs là que j'avais vu en vidéo. En fait, ils n'ont pas du tout utilisé les mêmes procédés. Quand ils avaient Ghibli derrière eux, entre guillemets, ils ont fait beaucoup de choses à la main. Par exemple, les ombres étaient faites à la main, etc. Et donc, il y avait un rendu dessin animé qui était absolument confondant dans le premier épisode, et qu'il est beaucoup moins, je trouve, dans le deuxième, même s'il a une génération de plus et donc des trucs bien mieux faits, etc. Mais par exemple, je trouve qu'on a, avec le premier Ni no Kuni, on avait presque l'impression d'être devant un dessin animé interactif. C'était bluffant. Je parle vraiment du côté visuel. Et dans Ni no Kuni, on voit plus la 3D. On voit plus, voilà, un jeu en 3D avec un cel shading très bien fait. Mais il y a moins ce côté confondant que dans le premier épisode. Alors c'est peut-être ma mémoire qui me fait défaut, parce qu'on est quand même sur une génération précédente, sur PS3. Mais voilà, c'est le truc qui m'avait un petit peu chagriné quand je vois le jeu tourner, en fait. Mais il est beaucoup plus complet, beaucoup plus intéressant sur le gameplay, quoi. Donc,
ouais, en voyant les deux côte à côte, moi je trouve que graphiquement le deuxième est quand même plus réussi.
Mais il est plus fin. Il est plus fin, mais si tu veux, c'est plus la technique utilisée qui a des répercussions sur le côté confondant du, c'est un dessin animé ou c'est un jeu, quoi. Alors que dans le 2, tu vois très bien la,
que c'est un dessin, que c'est un jeu, oui. Ouais. Bah, d'autant plus qu'il y avait des scènes vraiment, pour le coup, de dessins animés conçus par Ghibli dans le premier, qui sont absentes du second. Donc, plutôt un bon titre pour les fans de JRPG et peut-être
voire très bon.
Je suis d'accord, C'est le consensus est vraiment assez consensuel et vraiment assez uniforme sur le jeu. Tout le monde le considère comme une réussite. Là où on a beaucoup moins de consensus, par contre, c'est sur A Way Out, le jeu de Joseph Fares, développeur un petit peu détonnant, qui était à l'origine.
Joseph Fuck the Oscars Fares.
C'est ça, exactement, celui-là même, qui avait développé donc Brothers: A Tale of Two Sons il y a quelques années de ça, un jeu qui avait eu beaucoup de succès, et on attendait beaucoup de A Way Out, et c'est un peu, j'ai l'impression que pour le coup, on a deux sons. De clairon complètement détonnant. D'une part, des gens qui disent ouais, il est quand même réussi pour ce qu'il essaye de faire, et d'autres qui disent au contraire, c'est une occasion complètement manquée. Et c'est effectivement, il ne tient pas les promesses de ce qu'on pouvait espérer avec un héritage comme celui de Brothers et les ambitions de ce jeu-là. Alors, on rappelle très rapidement, c'est un jeu A Way Out où on peut jouer à deux, l'écran se divise.
On doit jouer à deux.
On doit, oui, pardon.
Tout à fait. C'est ça, l'originalité, c'est que tu peux pas jouer tout seul à ce jeu. C'est juste impossible, t'es obligé d'avoir quelqu'un sous la main à côté de toi ou quelqu'un en ligne dans ta liste d'amis prêt à jouer avec toi, sachant que le truc assez génial, c'est que tu peux faire jouer tes amis avec toi en ligne,
même s'ils ont pas le jeu.
Gratuitement, même s'ils n'ont pas le jeu. Ouais.
Donc un jeu suffit pour jouer à deux. C'est donc effectivement il y a tout un tas. Bon, tout le monde a vu les bandes annonces, etc. C'est tout un tas de points de vue différents. Parfois l'écran est splitté. Parfois on a les deux personnages à l'écran en même temps. Parfois un seul et puis ça passe avec des jeux de caméra vers l'autre personnage, etc. Intention et idée hyper originale, hyper intéressante. Bon, encore une fois, les avis sont partagés. Toi qui a mis les mains dessus un petit peu, quelles sont tes impressions personnellement?
Ah bah nous chez Gameblog, on fait partie des gens qui ont apprécié le jeu, hein, très clairement. Tu disais tout à l'heure qu'il respectait pas ses promesses, etc. Moi je trouve que si, hein, totalement. Il avait pas des promesses phénoménales, hein. Depuis le départ, on sait que c'est un jeu narratif, linéaire. Hein, pas avec des choix qui t'emmènent dans des endroits différents, etc. On sait que c'est un jeu indé, hein, faut pas oublier que c'est un jeu qui a été développé par une dizaine de personnes environ, un jeu avec un fort accent cinématographique, on va dire. Tout ça on savait à quoi s'attendre. Pour moi la façon de juger ce jeu au moment où j'y ai joué, c'était sur les qualités d'originalité narrative
et cinématique. Quoi. Est-ce que ça te raconte l'histoire? Moi qui suis assez réceptif, du coup je vais te poser la question pour moi. Moi qui suis très réceptif aux jeux narratifs, où justement les petites, pas défauts mais faiblesses de gameplay, on va dire, d'un jeu comme Uncharted ou ce genre de choses, moi ne me gêne pas du tout, parce que d'une part j'apprécie le gameplay quand même dans ces jeux-là, mais surtout ce qui me fait vibrer c'est l'aspect narratif. Et l'histoire que je vais suivre est l'aspect cinématique avec des acteurs qui sont bons, des dialogues qui sont bien écrits, une histoire qui rebondit, etc. Ce que tu as l'air de dire, c'est que pour le coup, ces promesses-là sont bien tenues.
Alors,
tout à fait.
Alors d'abord, bon, pour resituer un peu le truc, c'est un buddy movie, quoi. Hein. Donc, c'est un genre qui verse beaucoup dans le cliché de manière générale, mais c'est un genre qu'on souvent on apprécie. Hein. Moi, j'adore ça, les buddy movies. On parle de films comme L'Arme fatale, comme Tango et Cash, Rush Hour, etc. Donc c'est deux, on incarne chacun un personnage. D'ailleurs, je recommande vraiment à ceux qui vont jouer au jeu de le faire entièrement avec la même personne et avec le même personnage. C'est-à-dire qu'on peut incarner soit Léo, soit Vincent. Et moi personnellement, j'ai incarné Vincent là où Plume à la rédac incarnait Léo, et on s'est fait tout le jeu ensemble, chacun avec notre personnage. C'est important parce que t'as une véritable proximité qui se crée entre les deux joueurs, entre les deux personnages au fil de l'aventure. Et puis t'as aussi une proximité qui se crée avec le personnage que t'incarnes, qui est assez intéressante. Et donc en cela, je trouve déjà c'est une première réussite. Ensuite, l'histoire qu'elle raconte, elle est donc, comme je le disais, cliché, un peu comme tous les buddy movies, mais elle termine avec un final assez génial dont je dirais
oui,
rien.
Oui, on
du
ne spoile pas
spoiler, évidemment.
C'est combien de temps toute l'aventure à peu près?
Je dirais 7-8 heures, un truc comme ça.
D'accord. Ah oui, quand même.
Ouais. Bah, ce qui est marrant, c'est que tu peux prendre plus ou moins de temps parce que c'est un jeu qui va tout droit, hein, c'est un peu un tunnel narratif, mais t'as des petites zones de respiration, des petites bulles en fait, où dans chaque niveau entre guillemets, parce qu'en gros t'incarnes ces deux personnages qui l'histoire commence quand ils sont en prison tous les deux, ils s'évadent, ils se connaissent pas, ils s'aiment pas, etc., ils se font pas confiance, et puis ils s'évadent, et puis après c'est toute l'histoire de leur cavale et de leur objectif final qui est de...
Ne dis rien.
Je ne dirai plus. Et donc les personnages se rapprochent nécessairement. J'ai perdu le fil de ce que je disais du coup.
On joue pendant 8 heures et puis les personnages et les joueurs du coup se rapprochent.
Ah oui, alors donc il y a des petites bulles, c'est ça que je voulais dire, des petites bulles de un peu de liberté dans dans les environnements du jeu où Joseph Fares s'est amusé à caser des mini-jeux à la con, enfin des trucs sur lesquels tu perds du temps, t'es en pleine fuite, etc. Puis il y a un moment où il faut que tu manges, par exemple, donc tu ailles pêcher du poisson. Il y a un moment où tu te trouves dans un ranch où il faut réparer une bagnole, etc. Et puis tu dois te dépêcher un petit peu quand même. Enfin, t'as un objectif, etc. Mais tu peux jouer aux fléchettes et tu peux afficher les scores. En fait, ce qui est assez génial, c'est qu'il y a une proximité qui se crée aussi entre les deux joueurs dans le canapé ou à distance avec un casque micro. Mais il y a des moments de rigolade comme ça, de complicité entre les joueurs à travers les deux personnages qu'ils incarnent, qui sont assez sympas. Et puis après, bon, bah, en termes de réalisation et tout, je trouve ça plutôt clean. Après, c'est vrai que le jeu s'évertue, et ça, c'était vraiment un quelque chose d'important pour Joseph Fares. Il nous l'a expliqué quand on l'a eu en interview. C'était de faire en sorte que chaque moment du jeu soit presque un moment de gameplay différent, en fait. Et c'est vrai que c'est un peu ça. T'as du gameplay action, t'as du Uncharted même à un moment du jeu, du Uncharted très mal fait, faut le dire ce qui est. Enfin, très mal fait avec, on va dire,
les moyens du bord, quoi.
Pas les moyens du bord, système de couverture, tir, machin, etc. Des moments plus zen, des moments avec des véritables hommages cinématographiques aussi. C'est un jeu très référentiel. T'as une scène qui est géniale où en fait l'écran n'est plus séparé en deux et où chacun des joueurs joue à tour de rôle et en fait la caméra navigue de l'un à l'autre à des moments précis façon plan séquence. En fait, c'est tout un niveau du jeu. Je dis niveau, hein, c'est pas vraiment des niveaux, mais c'est toute une séquence du jeu qui est entièrement en plan séquence. Pour ceux qui aiment le cinéma et qui aiment marquer ce genre de truc, c'est assez intéressant. Bref, moi j'ai vécu une aventure.
C'est une scène d'action en plus, voilà. ce moment. Donc.
Ouais. Ouais. Après, il y a aucune rejouabilité. C'est un tunnel narratif. Il fait des choses de manière maladroite. Il y a des petits moments même où côté réalisation et mise en scène c'est un petit peu maladroit ou avec des temps de chargement trop longs ou même des séquences peut-être un peu trop longuettes, etc. Donc il a des petits défauts ici et là, mais enfin c'est quand même un jeu quand on aime les jeux narratifs, ce qui a l'air d'être ton cas, je pense que voilà, c'est quelque chose voilà dans lequel on se laisse transporter, quoi, tout simplement.
Bah écoute, ça me donne envie en tout cas. Effectivement, la manière dont tu le décris, c'est le genre de choses qui, je pense, pourrait me plaire. Donc, va falloir que je me trouve un partenaire. Très bien.
Aucune rejouabilité, hein, par contre.
Oui, vraiment, bah ça, généralement voilà. Dans les jeux narratifs, effectivement.
Ouais, tu sais pas, parce que tu vois, par exemple, là, il y a Détroit qui va sortir bientôt, le nouveau jeu de Quantic, où ils se sont beaucoup plus rapprochés de ce qu'ils avaient fait dans Heavy Rain avec. De multiples chemins qui amènent à de multiples fins et de multiples développements. Là c'est pas le cas du tout. Voilà. Donc c'est un petit jeu entre guillemets mais avec une réalisation tout à fait correcte et puis surtout un concept bien à lui et puis
c'est vraiment ça qui est intéressant finalement.
C'est bien joué.
Ouais. En soi le concept vidéoludique est intrigant, donc ne serait-ce que pour ça je pense que ça peut être intéressant de d'y jeter un coup d'œil.
Après donc, je comprends les mauvaises critiques, en gros les gens ce qu'ils ont reproché c'est que il veut faire plein de choses mais du coup il fait rien très bien, tu vois, ce genre de critique. Voilà, je pense que c'est une façon de voir les choses, de voir le verre d'eau à moitié vide, à moitié plein, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a d'énormes qualités sur le côté le narratif et la petite aventure que tu vis avec ton pote en mode buddy movie, quoi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très agréable, et c'est ce qui nous a beaucoup plu dans Way Out.
Bon, bah écoute, merci beaucoup pour ces rapports sur tous ces jeux. On va continuer un petit peu plus rapidement avec quelques news qui restent à couvrir. D'abord, Nintendo a fait un petit direct pour parler de jeux indépendants, pour parler de Nindies, avec quelques bonnes surprises. Lumines Remastered qui va arriver sur toutes les consoles, mais aussi sur Switch. Moi, ça m'a rappelé des heures de
super jeu
sur ma Lumines Machine, la PSP.
Ouais. La PSP, bien sûr. Super jeu.
Mark of the Ninja Remastered qui va arriver sur Switch cet automne. Phantasy Strike, un jeu que dont j'avais parlé déjà, qui est un jeu de combat en versus fighting, mais un jeu de combat hyper simple mais assez profond. Les mécaniques sont très très simples, il y a pas de mouvement de joystick compliqué ou de joypad, mais le jeu est quand même hyper sympa. C'est un jeu que j'ai sur Steam qui était en early access. Il va arriver sur Switch. Bon, ça me semble être une bonne plateforme et même pour avec des manettes pas hyper pratiques, pas hyper maniables de la Switch, même en mode portable, je pense que c'est possible de jouer à Phantasy Strike assez bien justement parce que c'est assez simple à manier. Ouais, vas-y, n'hésite pas à m'interrompre, hein, dans ces,
non,
dans
non,
ces
non,
séquences.
Oui, oui, non, je, moi, ce qui m'impressionne beaucoup, bah, donc, c'était sympa, hein, ce petit, direct Nindies. Ça confirme, s'il y avait besoin de confirmer, que, enfin, tout le monde veut développer sur Switch et que ça devient une plateforme un peu ultime. D'ailleurs, tu parlais de la PSP, mais il y a eu la PS Vita qui était la maison des indés, hein. Il y avait beaucoup de jeux qui sortaient à la fois sur PC, PS Vita, et puis PS4 aussi. Mais, ouais, c'est une plateforme idéale pour les petits jeux indés. D'ailleurs, il y a qu'à voir le store de Nintendo, c'est quand même.
Ah bah c'est. Ah, moi, les moi, des je suis montagnes vraiment, de jeux ah, indés, ouais.
Moi, je suis très impressionné en fait par la revanche maîtrisée qui est en train de prendre Nintendo par rapport à la génération passée qui a été. Mmh.
Ah bah oui, toi, certes, toi et le reste de l'industrie, hein, c'est sûr que là.
Voilà. Non mais c'est vraiment très impressionnant à quel point ils ont coché toutes les cases qu'ils avaient à cocher pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Le succès qu'ils sont en train de connaître avec la Switch, c'est un voilà, c'est hyper impressionnant parce que ils maîtrisent à la perfection leur calendrier, leur temps de communication. Tu vois là, le Nindies, c'était en attendant d'autres Nintendo Direct et puis le 3 qui arrive et les surprises qui on sait vont.
D'ailleurs, il va y avoir un championnat de Smash Bros. Switch à l'E3, donc ouais. On le verra en long, en large et en travers à ce moment. Donc,
ouais, bien sûr, bien sûr. Non, ils ont des cartouches, ils savent les utiliser, et puis ils ont plein d'idées sur cette génération qui leur manquait cruellement sur la précédente. Mmh. Et donc là, franchement, enfin moi, je suis très impressionné par la maîtrise de tout ce qu'ils font avec la Switch, quoi.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et bon, le seul petit point, si on veut vraiment, vraiment chercher un point noir à cette Switch, c'est que ils n'ont du coup plus qu'une seule plateforme. Et vraiment, c'est pour le principe de chercher un côté négatif. Mais à l'avenir, ils n'auront qu'une seule plateforme au lieu d'avoir une plateforme maison, une plateforme portable, à moins qu'ils sortent une 4DS
ça,
un jour.
Mais rien n'est dit.
C'est vrai, oui, c'est vrai. Je pense on ne peut pas prévoir ce que fait Nintendo.
Exactement. Je pense que dans leur département R&D, dans recherche et développement, ils ont plein de possibilités ouvertes et ils attendent de voir comment évoluent les choses. Hein. La 3DS, elle est pas morte. Hein. La 3DS sort encore des jeux, etc.
Non, bah disons que c'est sûr. Moi, je vois plus des Switch portables, tu vois, des Switch Go et des Switch Home plutôt que. Mais bon, bref, on verra. Ori est en train de faire un Joy-Con avec un vrai D-pad.
Ah
avec
oui. Oui, parce que tu parlais du point noir de la Switch en parlant de ce côté hybride. Moi, je trouve plutôt que c'est un point positif parce que justement, il se concentre sur une seule plateforme et c'est très bien comme ça. Moi, personnellement, j'utilise ma Switch de manière totalement hybride. Je suis le client parfait de Nintendo. Je pourrais être dans la pub. Hein. Moi, je joue sur l'écran à la maison. je la sors, je la rentre, je la file aux enfants.
Tu joues sur les toits. Tu joues sur les toits quand il y a des
ça,
soirées.
Ouais. Ça, ouais. Basket et tout. Non, mais enfin voilà. Et pourquoi on disait ça? Merde, putain, je perds le fil aujourd'hui, c'est un truc.
Je sais
fou.
Plus, le Ori, le stick.
Ah oui, le Ori, voilà.
Machin,
et donc, le vrai point noir pour moi, c'est cette. C'est quand même les
quatre boutons. Qui, là,
une espèce de zone morte là qui est très. J'ai joué à Pac-Man, je sais pas si t'as essayé Pac-Man Championship Edition 2, qui est super bien. Mais par contre, quand il joue sur la télé, bah moi j'utilise mon pad pro, donc pas
bien
de problème.
Sûr.
Et dès que je retourne en mode portable, donc du coup j'utilise les Joy-Con. Et là, c'est pas la même. Il y a une espèce de zone morte dans le stick qui empêche d'être précis dans Céleste, c'est un peu dérangeant aussi.
Ouais, bah du coup moi quand je suis en portable sur Céleste, je joue avec le joystick plutôt que la croix, donc oui, c'est
pas
évident.
On peut pas jouer avec la croix. Donc c'est là que
l'annonce
de ce Joy-Con gauche made in Ori qui met une vraie croix de direction à la place des quatre boutons, ça c'est une grande nouvelle.
Alors il a pas de rumble, enfin de vibreur, de je sais plus, je perds mes mots français.
De rumble HD, ouais.
Voilà, il a pas de rumble HD, il a pas de connexion sans fil, donc il faut forcément l'avoir connecté, etc. Mais bon, si vous avez en mode portable besoin d'un vrai D-pad, vous pouvez.
Ouais.
Et en plus, il est pas trop cher, c'est une vingtaine d'euros visiblement quand
ça
il sera
peut
disponible.
Ça peut servir. Ouais.
Parlons de la GDC, la Games Developers Conference en bon français. Il y a eu plusieurs petites annonces. Je vais passer très rapidement sur la plupart d'entre elles. Il y a eu d'une part Oculus Go qui a l'Oculus Go qui a été présenté par Facebook à plusieurs titres de presse qui semble confirmer ce qu'on dit depuis un certain temps, ça serait une bonne première expérience VR pas trop chère à $200 avec une la manette est pas trop mal foutue, elle capte les mouvements etc. Bon, c'est pas la vraie expérience réalité virtuelle, mais quand il sera disponible, à mon avis, il y a plein de gens qui vont se lancer. On a des très rapidement, on a eu des présentations des nouveaux moteurs graphiques, notamment Unreal et les capacités des processeurs Nvidia. Ça va parler aux connaisseurs qui font du ray tracing. C'était un petit peu le Graal il y a une vingtaine d'années. Moi, ça m'a rappelé des moments émus sur mes ordinateurs quand je voyais des vidéos qui étaient faites en ray tracing. Il y a un groupe qui est en train de se développer pour créer des groupes de travail pour les techniques de gestion des joueurs toxiques pour les jeux en ligne. Alors c'est un groupe qui réunit des gens comme Riot Games de League of Legends bien sûr, Blizzard, etc., etc. Et Twitch notamment. Donc espérons qu'ils réussiront à travailler ensemble et à trouver des moyens efficaces de gérer la toxicité des joueurs en jeu. Je sais pas s'ils réussiront, mais en tout cas, visiblement, ils ont l'air de se...
Il y a du boulot.
Oui, il y a du boulot, c'est sûr. Et enfin, des groupes de syndicats de développeurs qui sont en train de faire entendre leur voix. C'est un sujet qui me paraît assez intéressant. Alors, on sait que, notoirement, l'industrie du jeu vidéo est une industrie où les syndicats sont assez faibles et où l'exploitation de l'enthousiasme de certains développeurs, de certains fans qui veulent rentrer dans l'industrie, peut se faire évidemment au détriment de ses employés. Et je pense que c'est une preuve de maturité de l'industrie que ces discussions sont en train de commencer à avoir lieu. Alors, en France, bien sûr, on a une culture du syndicat qui est un petit peu particulière. Aux États-Unis, contrairement à ce qu'on peut penser, les syndicats sont très forts, notamment dans certaines industries du divertissement. On sait que Hollywood est complètement... régie par les syndicats, c'est le cas dans différentes autres industries, et donc les conversations ont commencé à avoir lieu aux États-Unis également pour la création d'un syndicat des travailleurs du jeu vidéo. C'est intéressant de voir sur quoi ils se focalisent. On a vu les discussions qui se sont focalisées sur la protection des minorités dans l'industrie, des minorités, des femmes, des personnes de couleur, etc. Dans les discussions et des côtés positifs et négatifs que ça pouvait avoir de créer des syndicats. Je pense que chez nous, les discussions auraient été plus sur les protections des employés tout court, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que je me demande si on n'est pas en train d'assister à un début de prise de conscience des travailleurs de cette industrie et qu'on va arriver à terme peut-être à effectivement la création de ces instances. Tout simplement, qu'on soit pour ou contre les syndicats, ce qui est sûr, les différentes implémentations des syndicats ici ou là, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, les travailleurs du monde du jeu vidéo n'ont pas de force de discussion ou même de présence quand il s'agit de parler tout simplement dans l'industrie. Donc peut-être que ça va se profiler à l'horizon avec ces débuts de discussion, et je voulais le noter. Je sais pas si t'as quelque chose à ajouter sur l'un des sujets, Julien.
Potentiellement sur tous. très rapidement, donc dans l'ordre, l'Oculus Go. Alors ça va être une expérience moindre par rapport à celle que tu peux brancher sur PC, etc. Mais par contre, pour moi, c'est vraiment l'avenir, le côté casque autonome. C'est vraiment l'un des gros défauts de la réalité virtuelle aujourd'hui, c'est le fait que ce soit pas pratique, que ce soit cher, que ce soit gros, que ce soit voilà. Donc tout ce qui va nous emmener vers la simplicité, le prix réduit. Et la qualité de l'expérience, quoi. Ça va être autant de choses qui vont améliorer la pénétration de la réalité virtuelle sur le marché au global. Donc ça, c'est très bien parce que c'est super la réalité virtuelle. C'est juste que pour l'instant, c'est vraiment pas pratique, coûteux et peut-être en deçà de ce qu'on espère avant de l'essayer. Je sais pas. Donc ça c'est très bien pour moi, c'est vraiment le futur, les casques autonomes. Bon, c'est pas un scoop hein, mais voilà. Le deuxième sujet, c'était
la création d'un groupe de travail pour gérer les joueurs toxiques.
Oui, bah alors là,
c'est intéressant parce qu'il y a énormément de techniques partout. Différentes. Hein. On sait que Riot a essayé énormément de choses, Twitch a essayé énormément de choses pour gérer le chat et c'est important qu'ils se parlent entre eux pour partager les bonnes pratiques, je pense. Et je crois que ça va pas évidemment résoudre le problème, mais ça peut aider.
Non, ce qui peut résoudre le problème, c'est et ça, je pense que tout le monde en est plus ou moins conscient, c'est qu'on puisse plus se cacher derrière un pseudo, quoi.
Dans le jeu vidéo, bonjour.
C'est compliqué, mais tu sais, on a le même problème nous sur les forums, etc. Enfin, surtout les endroits où les gens peuvent exprimer leurs idées, etc. Il y a malheureusement des gens qui polluent en exprimant plutôt de la haine ou de la méchanceté, gratuite, etc. Du troll. Donc c'est vrai que ça c'est pénible, il y a tellement de boulot que
À mon avis c'est ça le truc, c'est qu'il y a tellement de boulot. Bon, pour des structures plus petites c'est compliqué évidemment à mettre en place, mais pour des grosses structures ça sert à rien qu'ils réinventent la roue à chaque fois, tu vois, et peut-être même que les bonnes pratiques vont émerger de ces discussions et qu'on se rend compte de ce qui marche et de ce qui marche pas. Alors ensuite les chats, les forums, les jeux, chacun sont différents, mais peut-être qu'il y a des leçons à tirer. Et Riot par exemple avait mis en place des systèmes dont ils se sont rendus compte que intuitivement peut-être qu'ils pensaient que ça aurait marché, mais de fait après l'avoir essayé pendant plusieurs mois ou même plusieurs années, ils se sont rendus compte que ça marchait pas, ça menait à plus de toxicité ou que c'était pas efficace, etc. En parlant avec les autres et en partageant ces conclusions, on peut simplement tendre à plus d'efficacité et peut-être même livrer ces enseignements au reste de l'industrie, quoi.
Puis il y a un gros sujet, c'est l'éducation aussi. Hein, on a fait il y a pas longtemps à l'occasion de la journée mondiale des droits des femmes. On avait fait un podcast spécial en invitant on avait sur le plateau du podcast deux femmes de Riot Games justement. En France. Et puis voilà, quand on prend le sujet dans tous les sens et qu'on finit toujours par arriver sur un problème lié à l'éducation, il faut que les gens soient conscients du mal qu'ils font, il faut qu'ils soient conscients des répercussions que peuvent avoir les choses qu'ils font, etc., les choses qu'ils disent. Il y a un énorme travail là-dessus.
Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment réussir, parce que l'éducation dans ce genre de contexte, ça veut pas dire asseoir les gens sur un banc d'école et leur montrer non, bien sûr, oui, non, évidemment, mais je veux dire dans ce genre de contexte, dans le contexte des jeux ou ce genre de choses, c'est comment intégrer des systèmes, parfois même en jeu, pour gérer ce genre de choses. Comment d'ailleurs, c'est marrant, on l'a pas évoqué, mais dans Sea of Thieves, il y a des moyens hyper intéressants de gérer justement la toxicité des joueurs. Il y a des moyens intégrés au jeu, tu peux les mettre en prison dans le bateau,
système de vote, ouais.
Voilà, c'est ça, par système de vote.
Au fond de la cale.
C'est un moyen, tu le mets au fond de la cale, exactement, donc tu peux bannir un joueur s'il est vraiment super pénible, mais tu peux aussi, il y a des moyens pour les joueurs de gérer leur expérience de jeu et de gérer les conflits de manière graduelle, et peut-être que ce genre de système peuvent plus ou moins être efficaces, et c'est vraiment intéressant de voir comment intégrer ces choses-là dans les jeux. Enfin bref, bon.
Mais tu sais, on parlait d'école, nous on a un pigiste chez Gameblog, Johnny One, qui dans la vie, en plus de faire des piges pour nous, est prof de techno.
Ah oui.
Au collège. Et bien, ça fait partie du programme aujourd'hui d'expliquer aux gamins le fait qu'ils ont beau se cacher derrière des pseudos, quand ils font des choses qui sont répréhensibles, ils peuvent être chopés, ils peuvent être inquiétés, etc. Ça, on parlait de l'école, ça passe aussi par l'école, je pense. Le fait d'éduquer en fait les gamins d'aujourd'hui sur le fait que l'anonymat sur Internet ne te protège pas de tout, qu'il faut respecter les autres, quel que soit l'endroit où tu te trouves, que ce soit un forum,
t'as raison.
La rue, etc. Petite note pour terminer. Et puis pour le sujet des travailleurs, c'est très bien que les choses bougent un peu. On sait que notre industrie, elle souffre du côté développeur de pas mal de, tu parlais d'exploitation de la passion, etc. Parce que c'est un métier de passionné, évidemment. C'est de l'entertainment, etc. Mais c'est quand même des gens qui travaillent, évidemment. Et puis, il y a les crunch time aussi. C'est, on est une industrie qui fonctionne beaucoup sur le crunch. C'est-à-dire les horaires absolument impossibles en fin de mission, quoi, en fin de développement.
Et surtout que maintenant, le développement ne s'arrête jamais. Donc, le crunch peut devenir permanent.
Le crunch permanent. Ouais, c'est ce que j'ai découvert, c'est quand je suis passé de la presse papier à la presse sur internet. On avait un bouclage par mois, là c'est un bouclage par jour.
Ouais, c'est sûr. Bah, disons que là encore, je pense qu'il y a des gens qui vont s'emballer. La question n'est pas d'interdire le crunch, parce qu'il y a plein d'industries dans lesquelles ça fonctionne, ouais. Mais d'encadrer, quoi, de s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus, et bon, bref. Donc effectivement, ces discussions sont bonnes à avoir.
Exactement.
Continuons avec quelques petites news en plus. PUBG, on avait évoqué Fortnite et PUBG sur mobile. Alors PUBG est en train de faire feu de tout bois pour essayer de reprendre la couverture un petit peu que lui a volé Fortnite ces derniers.
C'est incroyable ce qui s'est
fou,
passé.
Hein. Ouais, on en parlait à l'épisode précédent, mais enfin c'est complètement dingue.
C'est ces phénomènes qui se suivent comme ça. D'ailleurs, tu te demandes combien de temps va durer Fortnite avant qu'il soit remplacé par autre chose. Hein, au final.
Je pense qu'ils sont en train de s'installer tous les deux, mais.
Ouais, faut voir. Moi, pour moi, c'est une industrie qui se réinvente tout le temps, qui a tout le temps de nouveaux concepts qui émergent, de nouvelles idées et de nouveaux phénomènes, quoi. Il y aura autre chose bientôt.
Peut-être. Moi, je vois PUBG et Fortnite quand même être bien installés pour, on va dire, 2 ans. Et puis peut-être qu'il y aura d'autres choses qui arrivent. Mais tu vois, ils sont en train, même PUBG Corp sont en train, qui fête d'ailleurs la première année, le premier anniversaire de PUBG. Ils sont en train d'implémenter des modes événements, tu vois. Qui sont finalement un petit peu comme Fortnite, ils ont une nouvelle carte beaucoup plus petite qu'ils sont en train d'implémenter. Je pense qu'ils ont suffisamment de parts de marché entre guillemets pour tenir.
Mais leur challenge c'est d'entretenir ça justement.
C'est
presque plus dur parce que je crois que eux-mêmes, que ce soit Fortnite ou que ce soit PUBG, ils ont été surpris de leur succès, je pense. Ils s'attendaient pas au moment où ils sortent le jeu, au moment où ils le développent, au moment où ils le sortent, etc. Ils s'attendent pas à ce que ça devienne le jeu numéro 1, que ça soit un phénomène planétaire, que ça soit streamé partout, que tout le monde parle que de ça, que tous les gosses jouent qu'à ça. Donc quelque part, c'est presque plus dur la suite, quoi. C'est sûr, c'est plus dur.
Ah bah c'est sûr.
Entretenir ce succès, c'est pas facile parce que du coup, ils sont un peu sous pression aussi, quoi.
C'est ce qu'on disait la dernière fois. C'est d'autant plus difficile. Pour une société comme PUBG Corp, parce que ils sortent un petit peu de nulle part. Ils ont en face Epic Games, qui est dans l'industrie depuis longtemps, qui a une taille beaucoup plus importante. Donc, ils gèrent les choses de manière très différente, c'est évident. Mais bon, bref. Donc, effectivement.
Alors, apparemment, PUBG, Epic a décidé de le rendre gratuit, ce Battle Royale, au dernier moment quasiment. C'était pas sûr qu'il sorte gratuitement, tu vois. C'est parfois le destin tient à tellement peu de choses, quoi. Aujourd'hui, ils doivent se féliciter d'avoir eu cette idée au final.
Bien sûr. Et puis on a eu effectivement des témoignages de développeurs qui expliquaient que Fortnite avait toujours été pensé comme une plateforme qui pouvait donner lieu à d'autres types de jeux. Et c'est pour ça que Battle Royale le mode Battle Royale a pu sortir aussi vite. Enfin bref.
Apparemment développé en 2 mois apparemment.
Ouais, c'est ça. Non mais c'est fou.
C'est fou.
Ouais. Et puis on le disait la dernière fois, c'est certainement aidé par le travail qu'avait fait PUBG avec le Unreal Engine qu'ils utilisent bien sûr chez Epic avec Fortnite. Ouais. Pour gérer 100 joueurs à la fois sur la carte, comme s'en plaignaient les développeurs de PUBG à l'époque, enfin le CEO de Bluehole à l'époque, mais enfin bref. On passe à un autre sujet. On pourrait parler de PUBG pendant longtemps et de la version mobile qui est pleine de bots, mais c'est volontaire, c'est pour vous mettre faciliter les choses, les premiers niveaux. C'était marrant parce qu'il y avait, bon, je vais quand même l'évoquer, il y avait plein de gens qui disaient « Oh, je suis trop fort sur PUBG, version mobile, j'ai gagné dès ma première partie. » Et en fait, c'était ils vous mettent contre des bots sans vous le dire les premières parties pour
vous. Il y en a qui l'ont fait en 10 ans. Je sais pas si tu te souviens de un jeu rang pas mal, Titanfall. Instauré ça. T'étais contre d'autres joueurs, mais t'étais aussi contre d'autres bots en fait.
Bien sûr.
Donc ça permettait aux gens nuls comme moi sur les jeux compétitifs. Parce que je suis vraiment un gros nul. Bah, je faisais des frags sur les bots qui coûtaient.
Oui, non, mais là c'est des parties normales, sauf que 99 autres joueurs sont que des bots.
Voilà,
mais ils te le disent pas. Donc t'as l'impression d'être super fort et puis
c'est du flan.
Ouais, c'est ça. Ouais. Star Wars Battlefront 2 a dévoilé la refonte de son système de progression qui, finalement, n'inclura aucun élément qui affecte le gameplay. Tous les personnages sont accessibles à, ou je crois débloquables assez rapidement, et puis tous les systèmes de lootbox ne sont que pour des éléments qui sont
cosmétiques,
voilà. Donc, bah, si vous vouliez, si vous attendiez avant de jouer à Battlefront 2, c'est peut-être le moment de le prendre en solde à un moment.
Oui. Est-ce que c'est pas trop tard? C'est ça.
Est-ce que c'est pas trop tard? L'expérience Battlefront, c'est surtout pour faire piou-piou dans Star Wars avec des graphismes incroyables. Donc,
bien sûr. Ouais. Ouais, mais le truc c'est que ça rejoint la question qu'on se posait avec Sea of Thieves tout à l'heure. Au bout d'un moment, si les mecs réagissent pas très vite, est-ce qu'il sera pas trop tard? Est-ce qu'ils auront pas perdu en route tous les gens qu'ils auraient pu avoir sur le long terme, quoi. Est-ce qu'ils sont pas gâchant le lancement, gâcher la vie entière du jeu, quoi.
C'est très possible. Et moi, l'autre question que je me pose du coup, c'est avec ce nouveau système de progression, est-ce qu'ils vont réussir à ramener c'est vraiment, je me fais l'avocat du diable pour le principe. J'avais déjà posé ces questions au moment des discussions sur les loot box et bon, on me l'avait reproché, mais c'est pour le principe. Est-ce que du coup, ils vont récupérer moins d'argent et pouvoir soutenir le jeu as a service pendant moins longtemps ou moins efficacement sur les 1 ou 2 ans avant que le prochain arrive. Bon, en tout cas, là, c'était clairement
c'est les joueurs qui vont décider.
C'est ça. Voilà. Moi, je pense que ça aurait été clairement le cas de Battlefront 2 était complètement inacceptable et on est dans une situation où la chose idéale aurait été qu'ils le pensent dès le début correctement et que du coup le truc se lance bien et soit motivant pour les joueurs en achetant ou sans acheter de contenu supplémentaire dès le début. Et si ça avait été bien prévu, peut-être qu'ils auraient pas perdu de temps à refaire tout depuis le début et peut-être avoir moins d'opportunités de soutenir le jeu sur le long terme. Bon allez, deux petites dernières news en deux mots. Street Fighter, le 30e anniversaire, la collection est disponible à la précommande et vous allez choper Ultra Street Fighter 4 gratuitement si vous précommandez. Je sais pas si ça vaut le coup de précommander. Moi, je suis un petit peu un fan de Street Fighter et je crois que je vais pas le précommander quand même. Mais bon, si vous le voulez, ça vous donne Ultra Street Fighter 4 sur PS4 en tout cas. Et puis, on reparle de Diablo sur Switch, Diablo 3 sur Switch avec une précommande qui a été une boutique anglaise qui a mis en ligne une précommande pour Diablo 3 sur Switch. Alors on avait évoqué les rumeurs et le démenti et puis le peut-être pas démenti au cours des épisodes précédents. Là, ce qui se passe généralement, c'est que les vendeurs, la grande distribution a les codes et les informations sur les ventes de jeux avant qu'ils n'arrivent, bien sûr, pour que au moment de la précommande, ils soient prêts et que les pages soient déjà disponibles. Là, c'est quand même une toute petite boutique. Est-ce qu'ils l'ont pas fait parce qu'ils ont entendu les rumeurs? Ils se sont dit, on va mettre les précommandes et donc c'est pas forcément un leak comme ça peut arriver quand c'est légitime. Et puis, on pensait que ça serait peut-être annoncé plus tard si c'était annoncé. Et là, ça fait quand même très, très tôt après le démenti de Blizzard. Enfin bref, on sait pas. Mais encore un indice qui pourrait laisser penser que Diablo 3 pourrait arriver sur Switch. Si vous êtes fan de Switch et de Diablo, vous pouvez peut-être essayer de vous réjouir pour peut-être être déçu quand il s'avérera qu'il n'existe pas, en fait. On sait toujours pas. Donc voilà. Pour nos dernières news, si tu veux ajouter quelque chose, c'est le moment. Et puis après, on va se dire au revoir. Un dernier truc à ajouter avant que je te donne l'occasion de dire aux auditeurs où ils peuvent te retrouver.
Eh ben, d'abord, merci de l'invitation dans ton émission. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Et puis, pas de message particulier.
D'accord, écoute. Voilà. Du coup, dis-nous, on a évoqué Gameblog, évidemment. Joulo sur Twitter, Joulo sur Twitter. Mais oui, donc.
Oui, du coup, maintenant tout le monde m'appelle Joulo,
mais c'est Joulo, c'est pas Joulo.
En vrai, c'est Joulo, ouais. C'est juste, voilà. C'était une connerie quand j'ai créé mon compte Twitter et
tout le monde.
Voilà, aujourd'hui tout le monde.
Et donc, à part Twitter, on le disait, Gameblog, où on peut te retrouver?
Oui, alors gameblog.fr, évidemment, site que nous avons cofondé avec d'anciens journalistes de Joypad il y a maintenant 11 ans et qui a suivi son bonhomme de chemin, voilà, donc tout ce qui est news, tests, dossiers, interviews, vidéos, un podcast toutes les semaines qu'on fait également en vidéo pour nos membres premium et puis voilà quoi. Donc n'hésitez pas, venez nous voir.
Magnifique.
Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà.
Très bien. Bon, je pense qu'ils sont quand même pas très nombreux à pas connaître Gameblog hein, chez les auditeurs. Merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter et vous retrouvez aussi cette émission sur frenchspin.fr où il y a également le rendez-vous tech qui est disponible, qui porte bien son nom puisqu'il couvre l'actualité tech qui est bien agitée en ce moment avec cette histoire notamment de Cambridge Analytica. Si vous voulez tout comprendre, on explique tout ça de manière simple et clair, donc vous pouvez télécharger sur votre application de podcast le Rendez-vous Tech et vous aurez tous les détails sur toute cette histoire et toute l'actu tech. Bien sûr, on parle d'Apple, de Google, d'Amazon, de Microsoft. Pour les fans de tech, c'est le Rendez-vous Tech qu'il faut écouter, c'est une émission hebdomadaire. Je te remercie donc encore une fois de m'avoir accompagné.
Merci
je
à toi.
Je fais une grosse bise aux auditeurs et on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao à tous.
Salut.